Ça, je le prends. Ouais. Bonsoir. Alors, c'est un privilège pour moi d'être ici, mais je sais qu'après le repas, on a toujours on pique parfois du nez. Donc, vous êtes tout excusés, c'est la grâce. Si vous piquez du nez, moi, je parle, donc je n'ai pas d'excuses, mais vous, vous en avez. Vous êtes assis, vous écoutez quelqu'un parfois lassant. Donc, je ne vous en voudrais pas. Cela dit, pour essayer de capter votre attention, je vous ai concocté un court extrait d'une vidéo que j'aimerais regarder avec vous. Juste deux minutes d'une petite vidéo. Ça va vous rappeler cet été pour ceux qui ont été à la mer. En tout cas, je ne sais pas si les vagues étaient aussi grosses.
Yes. Ouais. Vous avez du monde ce matin ?
Un petit peu.
Un petit peu ? À tout à l'heure.
On n'imagine pas vraiment un surfeur de grosses vagues travailler comme responsable clientèle.
Eh bien, c'est bien dommage, parce que les plus grandes stars mondiales du surf de très grosses vagues sont charpentiers, bûcherons, chasseurs. Il faut avoir un job à côté. C'est pour ça aussi que moi, je garde mon job à côté. Et voilà, j'essaie d'allier les deux.
On ne fait pas fortune ?
Non.
C'est dangereux ?
Ouais.
Pourquoi on le fait ?
Par passion. T'as surfé ?
Et depuis quelques temps, Gauthier a contaminé tout le personnel.
Ça va les gars ?
Les grosses vagues que surfe Gauthier Julien, on en parle un peu ici ?
On en parle régulièrement, ça fait la une, les journaux. On reçoit ne serait-ce qu'à la cellule d'encadrement des cadres, ou sur la plus grosse vague, en tout petit, qui c'est qu'il y a sur des cadres que l'on vend, Gauthier Garanx. Donc c'est quand même fabuleux quoi.
C'est vous là, juste
là, le petit point, ouais. On voit vraiment tout petit. C'est dingue, hein. Ça me perturbe mon corps. Vous voyez, j'ai du mal à en parler.
Qu'est-ce que vous vous dites en voyant ça ?
Je me dis que la vague est énorme.
Ce jour-là, un colosse s'est réveillé au large de Saint-Jean-de-Luz. Les meilleurs surfeurs français sont venus se mesurer à la vague de Bellara. Julien et Gauthier, les amateurs, assiste au spectacle jusqu'à ce que Gauthier décide de tenter sa chance sur une seule vague. Un monstre de 19 mètres qui va les propulser à plus de 9000 km. Jusqu'à Los Angeles, invité à la cérémonie du XXL, les Oscars du surf de grosses vagues.
Ça change de Saint-Lunaire, hein. Je sais pas c'est combien la plus grosse vague à Saint-Lunaire. 2 mètres ? Plus ? Ben là, quand il y a des grandes marées, ouais, ça monte déjà. Ben 19 mètres, ça fait quelques étages d'un immeuble. Et j'ai été interpellé par ce reportage. Alors, je l'ai vu tout entier. Vous pourrez taper Biggest Wave 2014 et vous tomberez sur YouTube, vous tomberez là-dessus. En fait, j'étais interpellé par la passion de cet homme. Il a dit, que quand le journaliste l'interview, que c'était dangereux, que c'était difficile, mais qu'il le faisait quand même. Et il lui a demandé, mais pourquoi vous faites ça, en fait ? Et ce qu'il a dit, juste ce mot, par passion. Par passion. Cet homme est un amateur, hein. Il aime surfer les vagues, donc il s'entraîne dur. Et en regardant le reportage, on s'aperçoit que quand il dit dangereux, vous n'imaginez pas. En fait, il va dans une piscine et il fait de l'apnée parce qu'il doit arriver à tenir 3 minutes sans respirer. Parce que quand on est pris dans une vague comme celle-ci, il faut 3 minutes pour remonter avec un gonfleur. Hein. Il a aussi un gonfleur autour de lui, en déclenchant le gonfleur, pour arriver simplement à la surface, que la déferlante est terminée. Et alors, c'est une lessiveuse, hein, on tourne. Et donc, il remonte, il lui faut 3 minutes. Et donc, tout ça, juste pour une vague. Tout ça pour une vague. Et qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, il met ses combinaisons, en plein hiver, il va surfer. Et je me dis, waouh, waouh, c'est impressionnant. C'est impressionnant ce que l'on arrive à faire par passion, avec la passion. Et je me suis posé moi-même cette question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Qu'est-ce qui te motive à remonter chaque dimanche sur les planches, à aimer et servir des gens que tu ne connais pas forcément, à aider des personnes qui vont manifester peut-être aucune reconnaissance? Qu'est-ce qui te pousse à sourire à des gens qui te font la tête? Qu'est-ce qui te pousse à aimer des gens qui ne sont pas aimables? Quelle est ta motivation profonde? Je pense que c'est une question légitime. Peut-être que vous vous la posez le matin avant d'aller au travail, quand vous mettez votre réveil. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je fais? Et donc, avec cette question en arrière-fond, j'aimerais observer une église, mais ce coup-là pas en Grèce. On va se déplacer un peu, on va aller en Turquie. En Turquie, et on va observer une église, pas dans n'importe quelle ville, mais une des plus grandes villes de Turquie, en tout cas à l'époque. C'est l'église d'Éphèse. Je ne sais pas si vous connaissez cette église, mais c'est une église probablement la plus impressionnante des églises du Nouveau Testament, ou en tout cas avec le plus grand pédigré de tous les temps. Est-ce que vous vous souvenez, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu la Bible, qui est passé, quels sont les hommes de Dieu qui sont passés à Éphèse? Quand j'ai fait la liste des hommes qui ont dirigé cette église, qui ont servi cette église, je me suis dit, waouh, est-ce que j'aurais aimé être dans cette église? Bah évidemment. Regardez. Déjà, Priscille et Aquilas. C'est eux qui ont annoncé l'évangile en premier dans cette ville. Apollos. Apollos était réputé pour être un prédicateur éloquent et un excellent argumentateur. Et donc, lui, il n'a pas tardé à joindre Priscille et Aquilas. Et donc, on a eu déjà ces deux personnages. Ensuite, Paul est arrivé. Ils avaient préparé le terrain de l'apôtre Paul. Paul est arrivé vers la fin de son deuxième voyage missionnaire. Il est resté quelques temps. Et au cours de son troisième voyage, là, il est resté 3 ans à Éphèse. Donc, l'apôtre Paul a été le pasteur de cette église pendant 3 ans. Ensuite, il a délégué à Timothée. Donc, quand vous lisez l'épître à Timothée, vous allez voir, il était pasteur à Éphèse. Il y a eu Onésiphore de Timothée, chapitre 1, verset 16. Il y a eu Tychique de Timothée, chapitre 4, verset 12. Tout ça, vous allez le découvrir en lisant l'épître à Timothée. En tout cas, le dernier personnage connu, entre guillemets, qui est passé par cette église, bah, c'est tout simplement l'apôtre Jean. Et il a passé les dernières décennies de sa vie à Éphèse, où il a probablement écrit les 3 épîtres de Jean. Donc vous voyez, Éphèse est vraiment une ville d'accueil, mais avec des pasteurs de renommée. Je me disais, en faisant ce récapitulatif, je me suis dit, mais il devait y avoir la queue le dimanche matin. Il n'y avait plus assez de place dans la salle. Il devait y avoir des gens dans les allées, au fond, dehors, et puis peut-être qu'il y avait plusieurs cultes. Parce que quand il y a des gens comme ça, ça attire des foules. Donc cette église-là, elle a été bénie par ses serviteurs, mais pas seulement. C'était une église vraiment active, une église consacrée. Et j'aimerais qu'on découvre comment elle était, cette église, dans une lecture du livre de l'Apocalypse. Et on va lire juste un court extrait, 3 versets du deuxième chapitre de l'Apocalypse. Donc une église qui a vraiment brillé et qui continuait de briller par ses actions. Vous pouvez suivre directement sur l'écran si vous voulez. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé. Je vais faire quelques remarques sur ce texte et ensuite on continuera la lecture. Déjà, qui écrit ? Qui commente ? Alors c'est Jean qui a écrit dans l'Apocalypse, mais c'est Jésus qui lui dicte. Et il lui dit, écris à l'ange. Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Et là, certains se sont dit, tiens, dans chaque église, il y a un ange protecteur. Hein ? Alors qui est cet ange ? Personnellement, j'ai du mal à imaginer qu'une lettre humaine, terrestre, faite de papyrus et d'encre, puisse être adressée à un esprit. C'est difficile de trouver l'adresse, hein ? Vous l'envoyez alors à qui ? Il habite dans un lieu, quelle est sa boîte aux lettres ? Parce que c'est des lettres qui circulaient. Et si vous avez regardé sur la carte, il y avait des facteurs. Et l'église d'Éphèse, elle est la première ici, mais si vous regardez, ça fait un circuit. Vous avez les chiffres en bas à gauche. Éphèse, ensuite il remontait Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie. Ça fait une boucle en fait. Eh bien le facteur a déposé ses lettres, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a cet ordre. Ce n'est pas pris au hasard. Alors qui est cet ange ? Déjà, il faut regarder un petit peu le mot. Je ne veux pas faire de gros mots, je sais que ce n'est pas bien de citer du grec, donc je ne le citerai pas. Mais le mot ange dans la Bible signifie messager. Parfois, c'est adressé à des hommes, Luc 9, 52. Parfois, ça concerne des anges de Dieu, Luc 1, verset 11, Hébreux 1, verset 13, 14, ou bien des démons, Jude 6. Jésus donne des instructions à un messager. Alors certains ont conclu que chaque église avait un homme, autrement dit un pasteur, un leader, pour conduire et instruire l'assemblée. Et je me suis dit, bah ici, ça serait Raph quelque part. C'est lui qui est en charge. Mais quand on regarde un petit peu de plus près dans les Écritures, on s'aperçoit que la responsabilité d'une église, elle est déléguée par Jésus à une collégialité. Si vous regardez le terme ancien, toujours, toujours au pluriel. C'est toujours un collectif. Et donc, ce serait plus probablement les anciens, les responsables, à qui on adresse les épiscopos, les bergers, hein, les poimen, les bergers du troupeau. Donc ces anciens, en fait, c'est le terme est interchangeable. Ou évêque, vous trouvez aussi. Et donc, moi, je crois que Dieu écrit une lettre à ceux qu'ils considèrent comme des messagers. Ils sont collectivement symbolisés par l'ange, donc le singulier, mais ce singulier permet d'imaginer qu'ils doivent parler d'une seule voix, d'une même voix. Et donc, ils doivent chercher la direction de l'Église et en tout cas être redevables du mandat qu'ils reçoivent. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des sept chandelier d'or. Celui qui tient les sept étoiles, il est clairement identifié, c'est Jésus. Mais qui sont les sept étoiles qu'il tient dans sa main et qui sont les sept chandeliers d'or au milieu duquel Jésus marche ? Eh bien, la réponse, c'est simple, vous lisez un chapitre avant, le verset 20. Je vous le mets ici, c'est plus facile. Voilà. Quant au mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite, et aux sept chandeliers d'or, les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers sont les sept églises. Donc là, on a l'interprétation du mystère. Les sept étoiles, ce sont les sept anges, c'est-à-dire les sept groupes de responsables. Et je trouve que c'est assez amusant. Mais dites-vous que ici, ce sont des stars. Hein, c'est des étoiles. Donc les responsables de votre église sont des stars. Et il y a une chose qui est rassurante, c'est qu'elles sont dans la main de Dieu. Il dit qu'il les tient dans sa main droite. Et le verbe est extrêmement fort ici. On pourrait le traduire par l'expression « il tient fermement, il garde fermé dans sa main, il ne lâche pas les étoiles ». Moi, je trouve que c'est un formidable encouragement pour tous les responsables dans l'Église. Pas seulement les anciens, l'ensemble des responsables, mais bien sûr les anciens. C'est que l'Église appartient à Jésus et c'est lui qui vous tient dans sa main. Je trouve ça profondément rassurant. Parce que quand on est ancien, je peux vous dire qu'on ne brille pas toujours. Des fois, on a les mouillettes. On est des stars appelées à briller, mais parfois on a les mouillettes. Le pétard, il est un peu étouffé, éteint. Cela dit, Jésus se présente comme celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et on sait, d'après le verset 20, que les sept chandeliers d'or sont les églises. Et là, il me semble qu'il y a un petit indice sur la fonction qu'une église devrait jouer. Au-delà de l'aspect décoratif, à quoi sert un chandelier ? Bon, si vous jouez au Cluedo, je sais, c'est une arme. Mais on oublie le Cluedo. À quoi sert un chandelier si on oublie que c'est un objet décoratif ? À éclairer, à briller, à exposer la lumière. Eh bien, il me semble que là, vous avez un des aspects fondamentaux d'une église. Elle doit briller. C'est la fonction principale de l'église, sa raison d'être. Les églises existent pour briller, pour éclairer un monde qui ne connaît pas Dieu. Et c'est ainsi que Jésus envisage le rôle de son église dans le monde. L'église existe pour être un chandelier. Et vous savez quoi ? Lorsque l'ECE de Grenoble cessera son ambition d'éclairer, eh bien, elle n'aura que quelques années à vivre. Parce que vous aurez perdu le sens, votre raison d'être. Si vous ne rayonnez plus, si vous ne brillez plus au milieu des ténèbres, vous aurez perdu votre raison d'être et vous allez mourir. Ce n'est pas une prophétie. Alors, j'ai dit que cette église, elle brillait. On a lu le texte. On va regarder un petit peu dans le détail maintenant. La première chose, c'est que l'église d'Éphèse brillait par son travail. Regardez, il fait l'éloge au verset 2. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. »« Je connais, dit Jésus. » Il sait qui elle est. Il sait qu'elle vit dans les moindres, ce qu'elle vit dans les moindres détails. Jésus marche au milieu d'elle et donc il n'a pas besoin de lire les activités sur Facebook ou sur le site web. Il sait exactement ce que vous faites. Il connaît chaque détail. C'est rassurant. Et Jésus va relever ici les œuvres de l'Église, son travail. Et le terme travail décrit un effort acharné qui conduit à un épuisement total. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des travaux ou une longue marche qui dure. Quand vous arrivez à la maison, vous posez votre sac à dos et boum, vous tombez, vous êtes cuit. En fait, c'est ce terme-là, c'est on est cuit, on a tout donné. Cette église d'Éphèse, elle était à fond, quoi. Elle se donnait jusqu'à un épuisement total. Ça signifie que les Éphésiens n'étaient pas des spectateurs. Ils ne venaient pas au culte pour se divertir ou pour se donner bonne conscience. Ils ne participaient pas aux activités pour leur propre épanouissement personnel. Ils ne donnaient pas à Jésus les miettes de leur vie. Hein, après le ski, hein, parce qu'on est à côté des montagnes, ou après Netflix, ou après Canal+, ou après n'importe quelle série, ou après les réseaux sociaux, ou tous les hobbies que vous pouvez imaginer. En fait, les chrétiens d'Éphèse donnaient le meilleur d'eux-mêmes et jusqu'à l'épuisement. Ils saisissaient chaque occasion et s'empressaient de se former, pas pour eux-mêmes, pas pour leur épanouissement. Ils se formaient pour servir l'Église, pour faire grandir l'Église. C'était l'objectif des Éphésiens. Et on sait qu'au début de l'Église, les chrétiens avaient passé de longues heures à étudier la Bible. Tyrannus, ça vous dit quelque chose, l'école de Tyrannus ? Tous les jours, pendant 2 ans, l'apôtre Paul a enseigné les Juifs qui étaient intéressés pour en savoir plus sur Jésus. Tous les jours, dans l'école de Tyrannus, pendant 2 années. Ça fait long. Vous imaginez là ? Ce n'est pas une fois par semaine ou une petite formation de temps en temps. Ils y allaient tous les jours. Ils n'avaient pas Netflix, ils n'avaient pas tout le reste. Hein ? Mais quand même, c'est assez impressionnant. Une école biblique. C'est la naissance de l'école biblique ici. Les Éphésiens ménageaient aucun effort. Et donc, si on regarde d'un peu plus près, on sait qu'ils ont été à la source de plusieurs autres églises. Epaphras, il s'est converti ici, dans l'église d'Éphèse, et qui a implanté l'église de Colosse. On sait aussi que l'église de Laodicée a dû être implantée par un effort d'essemage de l'église d'Éphèse. Les Éphésiens c'était de donner la peine pour que leur église soit un chandelier, pour qu'elle brille au milieu des ténèbres de l'occultisme et de la religiosité. En fait, ils avaient sué pour l'œuvre de Dieu. Ça, c'est quelque chose de positif. C'est ce que Jésus relève. Deuxième éloge qu'il fait auprès de cette église. L'église brillait par son discernement, par ou pour son discernement. Je le sais, tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. J'ai avancé trop vite ? Ouais, non, c'est une citation qui est en trop. Ici, Jésus se réjouit que les Éphésiens aient su démasquer les faux serviteurs. Si on regarde bien, le discernement, c'est une qualité qui est importante d'une église. Parce que j'ai observé avec le temps que les églises attiraient toutes sortes de personnes. Hein, quand on allume la lumière dans la nuit, il y a toutes sortes d'insectes qui viennent, même des nuisibles. Hein, si vous ne voulez pas de moustiques, n'allumez pas la lumière un soir en laissant vos fenêtres ouvertes. Il faut savoir fermer les portes ou gérer les nuisibles. Mais la lumière attire toutes sortes d'individus. Des gens qui sont bien, sympas, qui vont être de super disciples, et aussi de livrets, qui va vous pourrir un champ. Et on a toutes sortes de personnes qui sont dans nos églises. L'apôtre Paul, et je pourrais dire quasiment toutes les lettres du Nouveau Testament, évoquent des problèmes de faux enseignants, de faux apôtres, de gens qui sont faux en fait, des hypocrites, des gens qui vont détourner pour des raisons parfois personnelles, parfois d'autres raisons, mais bien souvent, ils sont là pour ravager les églises. Les faux enseignants, je vais vous citer juste un exemple, et c'est dans l'église, l'exemple de Corinthe. Non, je ne l'ai pas mis ici. Je vais vous lire ce que Paul dit. Il va essayer d'aider les chrétiens de Corinthe à avoir du discernement. Et donc, il va se démarquer et il va pointer sur un ou deux aspects. Comment reconnaître ces faux enseignants ? 2 Corinthiens 11, verset 7. « Ou bien ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même pour vous élever lorsque je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, et je m'en garderai. Ce que je fais, je le ferai encore, afin d'ôter tout prétexte à ceux qui en cherchent un, qu'ils se découvrent semblables à nous sur le point où ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. » Paul dénonce clairement ici le caractère profiteur de ces personnes. Il les appelle des faux apôtres de Christ. Ailleurs, il va dire qu'il est légitime, quand on prêche l'évangile, de vivre de l'évangile. Donc il n'est pas en train de dire que l'argent, c'est quelque chose de mal. Mais eux, ils essayaient de tirer profit. Et donc l'apôtre, quand il venait dans une église, il faisait en sorte de ne pas être dépendant de cette église. Et donc il était soutenu par d'autres églises pour justement ne pas être accusé. Mais ça ne dérangeait pas ces gens. Les faux apôtres, eux, venaient dans les églises et ils se faisaient payer et chèrement pour pouvoir enseigner. Donc ils profitaient de leur éloquence pour soutirer de l'argent et s'enrichir personnellement. Ce n'était pas pour l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul n'a jamais fait ça. Il était soutenu par d'autres. Ici, il a cité plusieurs églises qui le soutenaient, justement pour qu'il ne soit pas à charge. Et c'est comme ça qu'il a pu démontrer qu'il n'était pas un faux apôtre. Donc l'argent, ça c'est un des aspects. Il y a le faux enseignement, mais c'est surtout l'appât du gain qui fait que dès que vous voyez quelqu'un qui cherche l'argent, c'est louche. Ici, vous avez une citation de la Didaquée. Donc c'est quelques années après la rédaction de l'Apocalypse, à peu près 90, on va dire à la fin de la rédaction des Épîtres et donc de l'Apocalypse, on a déjà la Didaquée, un manuel d'église qui circulait. Donc fin du 1er siècle, début du 2e, c'est un petit peu après l'église de l'Apocalypse, enfin les écrits ici. Regardez ce qu'il disait pour avoir du discernement. Que tout apôtre qui vient de chez vous soit reçu comme le Seigneur. Mais il ne restera qu'un seul jour, et si besoin est, le jour suivant. S'il reste 3 jours, c'est un faux prophète. Ouf. C'est pour ça qu'on nous invite que le week-end, hein, vous avez remarqué ? À son départ, que l'apôtre ne reçoive rien en dehors du pain pour l'étape. On a déjà eu du riz, nous, c'est déjà... On a dépassé les bornes, là. S'il demande de l'argent, c'est un faux prophète. Donc moi, je ne demande rien, d'accord ? Au moins, je ne serai pas un faux prophète décrit dans la Didaké. Mais ce n'est pas la Bible. Mais vous voyez, il y avait tellement d'arnaques, ça attirait tellement de gens. Hein, ils se disent, ah tiens, il y a moyen de faire de l'argent avec les chrétiens, ils sont un peu crédules. Eh bien, boum, ils s'engouffraient là-dedans et ils arrivaient à soutirer de l'argent et à en vivre. L'Église a toujours été la proie des faux prophètes. Toujours. Elle a toujours été la proie des gens qui cherchent à s'enrichir ou à profiter de leur position pour exercer une forme de pouvoir. L'argent ou le pouvoir. Après, vous allez voir dans Timothée, on parle de sexualité aussi. Hein, des hommes qui allaient... Jambres, c'est ça ? Voilà, ces hommes-là qui captivaient des femmes, paf, sexualité. On a le triptyque là, hein. Argent, pouvoir, sexe. 40 ans avant que Jean écrive la lettre de l'Apocalypse, regardez ce qu'il disait déjà aux anciens d'Éphèse. Je vous lis le texte. Acte 20, versets 28 à 32. Je ne sais pas si je l'ai mis ici. Si je l'ai mis ici. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour faire paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau, et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir avec larmes chacun de vous. Nuit et jour, il les a avertis. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je ne veux pas être pessimiste, mais la question n'est pas si de faux enseignants se glisseront dans votre église, mais quand ? C'est assuré qu'il y aura des faux enseignants à un moment donné dans votre église. Ils sont peut-être déjà là. Je n'ai pas de scanner pour ça. Mais toute église vivante sera attaquée de l'intérieur ou de l'extérieur. Mes amis, il suffit de vivre quelques années dans une église évangélique pour découvrir cette triste réalité. Moi, ça fait 20 ans que je suis pasteur. Ce n'était pas une grande église, mais on était dans une grande ville de province. 250 000 habitants, Dijon, c'est déjà une grande ville de province. Eh bien, avec les anciens, on a dû faire face à moult situations. On a dû confronter des personnes malveillantes, des gens mal affermis. On a dû reprendre, on a dû corriger, parfois discipliner et même écarter du troupeau. Je me souviens, la première année que j'ai démarré mon ministère, on avait un enseignant, enfin ce n'était pas un enseignant de l'église, mais c'est quelqu'un qui enseignait la Bible et il venait des îles. Et il avait une théologie sur la démonologie qui nous faisait hérisser le poil. Gentiment, on lui a demandé ses notes, parce que je ne voulais pas accuser à tort, sans savoir. Mais des gens nous disaient, on entendait des bruits. Alors je lui ai demandé, est-ce que tu as des notes d'études bibliques ? Il me les a données, j'ai étudié, j'ai dit, waouh ! On a été gentils, on lui a dit, écoute, tiens, voilà un livre. Neil Anderson, peut-être que tu peux essayer de le lire. Il n'a pas voulu. Ensuite, on a fait venir un spécialiste à l'église. Il n'a pas assisté. On lui a payé le voyage pour aller à Genève, pour assister à une conférence de Neil Anderson. Tout frais payé. Il a refusé. J'ai fini, après plusieurs mois, gentiment, vous voyez, on lui demandait de plus prier à l'église, parce que quand il venait, il prenait des notes et il priait n'importe quoi. Je me souviens, parfois, m'être assis à côté de lui et mettre ma main sur sa jambe et serrer de plus en plus fort pour qu'il arrête de prier. Et on a fini avec un frère qui fait 2 mètres de se mettre devant l'église pour l'empêcher de rentrer dans le culte. Et il profitait que des non-chrétiens étaient là ou des nouveaux pour se glisser et rentrer. Vous imaginez ? On a utilisé toutes les méthodes, toute notre artillerie douce. Et à la fin, on a sorti le gros calibre. On l'a foutu dehors. On a voté pour qu'il s'en aille. Et il est allé mettre le bins ailleurs. On a rencontré des manipulateurs qui nous cachaient des informations pour pouvoir faire ce qu'ils, eux, souhaitaient dans leur projet. On m'a manipulé pendant des années en me disant « mais il n'y a plus d'argent sur le compte !» Puis un jour, j'ai découvert qu'il y avait 20 000 euros qu'on n'utilisait pas alors que tout le monde se saignait. On avait un compte où il y avait 20 000 euros qui dormaient, mais personne n'était au courant. Et j'ai découvert ça comme ça. J'ai dit « attends, on est en train de culpabiliser les frères dans l'église qui donnent de l'argent, on n'a pas assez !» Et en fait, il y avait de l'argent sur un compte. J'ai rencontré des jeunes chrétiens ignorants qui minimisaient l'enseignement de la Bible. Parce qu'ils disaient, mais dans la Bible, il y a plein de fautes, c'est truffé d'erreurs. Et ils enseignaient ça au groupe de jeunes, au GBU. J'ai rencontré des gens déçus et amers qui diffusent leur poison. Hein, parce que l'amertume, si vous prenez le terme qui décrit l'amertume, c'est du poison en fait. Quand quelqu'un est déçu et qu'il entretient ce sentiment-là, à un moment donné, ça va sortir de sa bouche. C'est du vomi, hein. C'est acide. Et ça, c'est un véritable poison. Les gens qui sont blessés, qui ne guérissent pas, qui ne pardonnent pas, on en trouve dans nos églises et ça vient pourrir l'ambiance d'une église. Une seule personne suffit. Je peux vous assurer, quand nous, il y a une personne qui venait pendant un temps, quand elle n'était pas là, l'ambiance changeait. Quand elle était là, c'était plus du tout la même ambiance. J'ai aussi rencontré des pinailleurs légalistes qui trouvent leur sécurité dans les règles. Hein, vous les connaissez, ceux-là. On les appelle les pharisiens dans la Bible, pas les parisiens, les pharisiens. D'accord ? Eh bien, ces gens-là, ils souhaitaient... Alors ça, c'est ce qu'on a rencontré. Ils agissent sous toute autre forme, hein, mais eux, ils voulaient que les anciens légifèrent sur tous les détails de la vie de l'Église. Ça les rassure. Moi, je veux savoir qui peut prendre la Sainte Cène, à partir de quel âge, et à partir de quel âge on doit baptiser. Est-ce que c'est 16 ans, 18 ans, 21 ans, les filles, tout, il fallait tout légiférer. Et quand on est ancien, on doit faire face à ce genre d'individu. Ça, c'est les attaques à l'intérieur, mais il y a aussi les attaques à l'extérieur. Et là, je ne compte plus les discussions et les guérisons, les virus que je dois soigner après avoir été sur Internet. Parce qu'il y en a qui vont régulièrement sur Internet et qui attrapent des virus spirituels et qui nous ramènent des doctrines à la maison, à l'école. Et donc, généralement, ce sont des chrétiens mal affermis qui gobent tout et n'importe quoi. Et donc, bien sûr, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Et donc, la personne qui est sur Internet, qui l'a écouté, et donc nous, on doit maintenant défendre la vérité, alors que s'il n'avait pas été, il n'y aurait pas eu ce problème. Mais bon, je ne suis pas en train de critiquer le web. Hein. Ici, dans cette salle, il y a des gens qui gèrent des sites web dont je suis au bénéfice déjà depuis plus de 20 ans. Je pense au Poisson dans le Net, et puis TPZ, il y a des super podcasts, il y a des super, comment on appelle ça, les blogs, RAF, communique aussi sur son blog de cette manière-là, et c'est génial. Mais c'est aussi, Internet, un nid à faux prophètes, un nid à faux enseignants, un endroit où on attrape des virus spirituels. L'évangile de la prospérité. Alors, ce n'est pas l'évangile, hein, on est d'accord, ça c'est un faux évangile, mais c'est nommé l'évangile de la prospérité. Je vous décris rapidement ce que c'est. Très rapidement. C'est un évangile où si vous vous tournez vers Dieu, votre vie sera bénie. Vous aurez une meilleure santé, vous serez plus riche. D'accord ? C'est ce qu'on vous dit quand vous allez chez la cartomancienne où hein, vous voulez toujours être plus riche, plus beau, plus fort. Ce n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est un renoncement à soi. L'évangile, c'est un abaissement, c'est une reconnaissance de notre état de pécheur devant Dieu. L'évangile, c'est un don de Dieu gratuit qu'on ne peut pas mériter. Et l'évangile ne va pas forcément t'apporter des bénédictions matérielles. Regardez les Thessaloniciens qui grandissaient, la parole grandissait, ils croissaient et ils étaient persécutés. D'entrée de jeu, ils se sont convertis, ils ont été persécutés. Ça, c'est l'évangile. Mais un évangile Weight Watchers, un évangile light, un évangile où « Viens Jésus, tu verras, tu seras riche et en bonne santé ». Mais mes amis, ça c'est de l'escroquerie, c'est pas l'évangile de Jésus. C'est pas l'évangile de Jésus, ne vous trompez pas là-dessus. Alors l'évangile de la prospérité, la parole de foi. Si tu crois quelque chose, tu as la puissance de la créer. Donc si tu crois, ça va se passer. Hein ? Ça c'est word of faith, ça vient des US. Mais on a aussi des duplicata ici en France. La pensée positive. Vous connaissez Joel Osteen ? On le voit sur plusieurs sites chrétiens. Mes amis, c'est pas l'évangile une fois de plus. Et tous ces gens gagnent du terrain parce que les responsables des sites web n'utilisent pas leur discernement. Je vous cite des noms. Et ça, quand vous voyez le nom, vous devez réagir. Et je cite le CNEF, hein, donc c'est pas forcément... Je ne tire pas à boulet rouge, c'est les évangéliques, là. Benin, Joel Osteen, Kenneth Hagin, Creflo Dollar, Kenneth Copeland, Joyce Meyer. Tous déforment d'une manière ou d'une autre l'évangile de la grâce. L'évangile de la grâce. Jésus a dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous comme des brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quelqu'un de non averti ne voit pas la subtilité. Ils sont comme des brebis à l'extérieur. Vous êtes déjà déguisés hein, pour un bal masqué ou une fête ou à la colo mégatop. Eh bien là, ce sont des loups, mais qui se déguisent en brebis. De l'extérieur, si on est un peu loin, on ne le voit pas. Si on n'est pas averti, on voit une brebis. Il marche comme une brebis ou trotte. Il bêle comme une brebis. Il sent la brebis parce qu'il a mis une peau de brebis sur lui, mais ce n'est pas une brebis, c'est un loup déguisé. Matthieu 7, verset 22. Non, ce n'est pas là. Matthieu 7, verset 22 et 23. « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Les guérisons, les prophéties, les exorcismes bruyants, ça peut être des contrefaçons de l'ennemi et pas forcément l'œuvre d'un chrétien authentique. Mes amis, on reconnaît un chrétien à ses fruits, pas à ses dons, pas à ses capacités. Le fruit spirituel, le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, AJPP, BBFDM, vous connaissez le texte. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est à ce fruit-là, le fruit de la repentance, l'humilité, le service. C'est à ces fruits-là qu'on reconnaît un vrai chrétien, pas à ce qu'il va faire. Le diable sait aussi faire des miracles, les amis. Et Jésus dit en Matthieu 24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils opéreront, et il parle bien des faux, ils opéreront de grands signes et des prodiges, au point de séduire si possible les élus. » Vous imaginez ? C'est-à-dire que là, on a affaire à de la contrefaçon, mais de la bonne contrefaçon. Ça va être des vrais miracles, des vrais prodiges, et même des vraies prophéties. Mais ça prouve rien du tout. Donc je vous encourage, comme l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul le dit dans Acte 20, mais un Pierre, je pense à un Pierre, qui avait vécu mais une situation exaltante, la transfiguration. Il décrit au chapitre 2, dans la première épître, la transfiguration. Et il dit, waouh, c'était quelque chose de génial. Et tout de suite derrière, il dit, mais nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Et la parole prophétique, ici, c'est les Écritures. Ce n'est pas ton expérience qui doit primer, c'est les Écritures. Même Pierre qui a vécu quelque chose de vrai, hein, ce n'est pas parce que c'est faux, mais il ne s'appuie pas sur son expérience, il n'enseigne pas son expérience exaltante. Ce n'est pas ça la norme. Il revient aux Écritures. Et la mise en garde de l'apôtre Paul, il vous remet à Dieu et aux Saintes Écritures. Toujours, toujours revenir à la Bible. Et donc, c'est un des aspects fondamentaux. Et c'est comme ça que brillait cette Église. Elle brillait parce qu'elle avait du discernement doctrinal. C'était orthodoxe, cet enseignement. Troisième qualité de cette église, elle brillait par sa persévérance. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. La persévérance dont il s'agit ici, ce n'est pas de la résignation, du fatalisme ou une approbation sinistre des événements. Ici, la persévérance, c'est plutôt une acceptation courageuse des difficultés, une acceptation courageuse des pertes que l'on va subir, une acceptation courageuse des souffrances. Les chrétiens d'Éphèse étaient des gens courageux. Ce n'étaient pas des novices dans la foi. Ce n'était pas le genre de chrétien à bouder ou à quitter l'église après une déception, une contrariété ou une remarque déplacée. Ils n'étaient pas susceptibles. Ces chrétiens d'Éphèse n'abandonnaient pas à la première épreuve. Une douleur, une incompréhension, une injustice. Ils étaient là et ils restaient fermes dans leur foi, dans leur position. C'est des chrétiens qui étaient matures. On a une certaine maturité quand on apprend à serrer les dents, quand ça fait mal. Quand on prend des coups, on aurait tendance, avec notre immaturité, notre jeunesse, à vouloir les rendre tout de suite. Quelqu'un de mature va encaisser le coup, va réfléchir et va agir différemment. Il ne va pas rendre coup pour coup. Et c'est bien l'état des Éphésiens. Des gens qui étaient matures, qui persévéraient malgré la souffrance. Et ils ne se lassaient pas. Ils ne se lassaient pas. Moi, je me souviens d'un jeune. On était au GBU et souvent, il racontait tout le temps des âneries sur la Bible. Mais tout le temps, systématiquement. Il n'y avait pas une fois. On avait le GBU toutes les semaines et toutes les semaines, il la ramenait et il sortait des grosses, mais des énormités sur la Bible. Et chaque semaine, je devais recorriger, reprendre derrière, etc. C'est ça, ne pas se lasser. J'aurais voulu l'envoyer bouler une bonne fois pour toutes. Eh bien non, il fallait continuer et persévérer. Je vais avancer un peu plus vite ici. Si on fait un bilan, juste là, on tire un trait en bas de la page. Comment peut-on qualifier l'église d'Éphèse ? Si, moi je suis en recherche d'emploi, hein, je dis, c'est pas une annonce, hein, c'est juste un constat, c'est pas une demande, mais si une église avec un tel pédigré, avec un tel CV, me demandait d'être pasteur, je signe tout de suite. Pas vous ? Bah, vous n'êtes pas pasteur, mais Raph, tu signes ? Franchement, moi je signe. Mais voyez l'analyse que fait Jésus ici. Il analyse des faits observables. Les œuvres, le travail, ça se voit. On peut regarder la persévérance, ça se mesure dans le temps. D'accord ? Donc Jésus, il est en train de relever des aspects positifs de l'Église, mais qui sont mesurables, visibles, hein, qui sont quantifiables. Mais il va changer d'optique. Il va prendre, il va faire une analyse au rayon X. Bon, âme sensible, abstenez-vous. Il y a deux ans, j'ai fait une chute de vélo assez grave. J'ai fini aux urgences. Enfin, aux urgences lentes. C'est la France. Donc après 3 heures d'attente, là c'était dans l'hôpital, hein, ça coulait. 3 heures d'attente avec mon coude, le genou. Là c'est mon dos, hein, c'est le côté ici là. Vous voyez l'hématome que vous voyez. Et donc 3 heures d'attente, j'avais mal bien sûr au dos, j'avais mal un peu de partout. C'est une sorte de lessiveuse. J'étais à 50 km/h, mon pneu a éclaté devant, je suis passé par-dessus le vélo, sur le goudron. Sans rien. Hein. Donc sans rien, sans... J'étais en tenue manche courte, bien seconde peau, donc vous voyez, pas très épais. Et donc j'attends. Puis au bout de 3 heures, il y a un infirmier qui vient me voir, il me dit, bah, écoutez, j'ai vu le médecin, en fait, vous allez faire une radio. Ok. Donc, je vais faire une radio, je le suis dans les couloirs. Et puis, c'est long, hein, parce que les radios, généralement, c'est au sous-sol, hein, dans les hôpitaux, je ne sais pas, dans les autres. Mais ici, c'était au sous-sol. Donc, je me balade derrière l'infirmier, je fais ma radio. Il me met dans toutes les positions parce qu'il fallait plusieurs... comme c'était au niveau du bassin, il craignait une fracture du bassin. Donc, du coup, ils ont ausculté partout la radio de droite. Et puis, me revoilà dans la salle d'attente. Alors, ce coup-là, elle porte bien son nom parce que j'ai bien attendu. Et en fait, au bout d'une heure, il y a le radiologue qui revient avec la radio, comme ça. Il voit qu'il n'y a personne autour. Il dit, c'est vous qui avez fait la chute en vélo ? Je dis, bah oui. J'étais en train de faire les 100 pas. Ça faisait une heure et demie que j'attendais. Moi, il me dit, mais monsieur, il faut être sur un brancard. Vous avez une fracture du bassin. Et moi, j'avais arpenté, j'avais circulé, vous voyez. Mais avant la radio, tout allait bien. Enfin, j'allais bien. J'étais en vie, quoi. J'avais quelques bleus, quelques bobos. Mais une fois que la radio est passée, les amis, ma vie a changé. On m'a mis sur un brancard à roulette. Surtout, tu bouges pas. Vous voyez, ma vie a été transformée à partir du moment où j'ai été transpercé par le rayon X. Et c'est ce que Jésus va faire. On a regardé l'état général. Bon, il y a quelques petits bobos, mais c'est pas mal, hein. Franchement, tu pédales bien, Franck. Je trouve que tu pédales bien. T'as quelques bleus, mais franchement, dans l'ensemble, à ton âge, c'est bien. Sauf que, eh bien, il y avait une fracture du bassin pour l'église d'Éphèse. Regardez ce que dit la suite. Mais, hein, quand il y a des gens dans l'église qui vous font des compliments, c'est génial. Mais quand on arrive le petit mot, je ne l'aime pas celui-là. Hein, Raph, tu confirmes, hein, hein, les anciens, là. C'est super, votre église, mais... Ouf. Qu'est-ce qu'on va... Et là, on reçoit du pâté, en général. Hein. Là, c'est... Les anciens font pas ci, il n'y a pas ça, la louange, le papier toilette n'est pas de la bonne couleur, etc. Le mais, les amis, ça casse tout. Mais quand c'est Jésus qui dit le mais, là, on doit y prêter attention. Hein. Vous connaissez ce texte. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Si on faisait la liste des péchés acceptables d'une église... Non, non acceptable, excusez-moi. La liste des péchés acceptables, ce n'est pas une bonne église, n'y allez pas. Mais vraiment, vous voyez, une liste de péchés, dans cette église, ça ne passe pas, quoi. Si tu viens avec une jupe, vraiment trop courte, là, ça coince, tu vois. S'il y a des péchés d'ordre sexuel, la pornographie, la médisance... La colère, aujourd'hui on pourrait rajouter le ministère pastoral féminin, vous voyez ce genre de truc. Là, il ne faut pas en parler, ça coince. Est-ce que vous mettriez dans cette liste ton premier amour ? Franchement, je ne l'aurais peut-être même pas qualifié comme un péché. Mais là, Jésus, il rigole pas. Parce que derrière, il y a l'artillerie lourde qui va arriver. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Alors là, il y a eu plein d'interprétations. Je vous passe les quantités astronomiques d'interprètes. J'en ai retenu quelques-unes quand même. Je vais en écarter et puis on ira dans la direction que je souhaite. C'est moi qui dirige, donc je fais ce que je veux. Là... La perte de l'amour fraternel, ça a été évoqué. Le premier amour, on ne s'aime plus les uns les autres. Avant, c'était chouette et tout. Mais dans le contexte, on a du mal avec l'église d'Éphèse. Je ne pense pas que ce soit l'amour fraternel. Parce qu'on persévère ensemble. Hein. Quand ça charge, on se serre les coudes et on y va. Donc l'amour fraternel était présent. Je ne pense pas que ce soit ça. La perte de l'amour pour la doctrine apostolique. Premier amour. Avant, tu te levais, tu lisais ta Bible le matin, tu mémorisais la parole. Maintenant, ça fait 20 ans, mon pote, tu fais plus rien, quoi. C'est pas ça. Regardez, ils persévéraient, ils ont réussi. Ils étaient, doctrinalement, ils étaient costauds, les gars. C'était pas ça. La perte de l'amour pour Christ. Là, je pense qu'on a quand même un élément important. En tout cas, l'amour pour Christ va piloter d'autres amours derrière. Donc l'amour de Christ, l'amour pour Christ, pour notre Seigneur, est fondamental. Et je pense que c'était vraiment un aspect important. Les chrétiens d'Éphèse avaient perdu leur passion. La petite flamme qui brillait jadis dans leurs yeux s'était probablement éteinte. Un autre amour, et c'est le dernier, et je pense que c'est plutôt celui-là dont il parle dans le texte. Mais ce n'est pas exclusif. Le verset 5, il dit « J'ôterai le chandelier ». D'accord ? Si tu ne retrouves pas ton premier amour, j'ôte le chandelier. Ça veut dire que c'est le fait de briller, l'amour de l'éclairage, l'amour des perdus. C'est probablement ça dont il parle ici. En fait, tu es un chandelier, mais si tu continues à rester comme ça, à faire ce que tu fais par routine, que tu réfléchis plus finalement, ce que tu t'organises un week-end d'église, c'est super, mais est-ce que tu sais pourquoi tu le fais ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Pourquoi on organise ? Pourquoi on a un message qui dure 40 minutes ? Pourquoi ? Et etc. Toutes ces questions qui reviennent. Il me semble qu'on doit se poser des questions. Et les chrétiens d'Éphèse se posaient plus. Ils étaient rentrés dans une routine mortifère. Ça les conduisait gentiment à la mort. Et quand Jésus va ôter le chandelier, les amis, l'Église ne sera plus là. Quand Jésus n'est plus au milieu de l'Église, ce n'est plus une Église. C'est une association de chrétiens. Donc l'Église qui a perdu son premier amour, elle n'éclaire plus. Et c'est, à mon avis, l'amour de Jésus, évidemment, mais aussi l'amour des perdus. Les deux sont vraiment imbriqués l'un dans l'autre. Ce triste exemple nous montre que nous pouvons jouer à l'Église. On peut ressembler à une Église vivante. Mais en réalité, notre électrocardiogramme est plat. C'est-à-dire que là, on est en train de vivre sur l'inertie du passé. On a lancé des activités, on est pris dans le flot, dans cette inertie-là, on roule, on est en roue libre, il n'y a plus de passion, donc les choses continuent de s'accomplir, mais on roule sans essence dans le réservoir. Le cœur ne bat plus, le moteur est HS. Donc vous voyez, c'est la voiture qui roule, on a tout enlevé, panne sèche, mais la voiture continue à rouler encore quelques kilomètres. On est là, avec Éphèse. Super les activités, des œuvres, du travail, de la persévérance, à cheval sur la parole. Je me suis dit, waouh, c'est l'église de Grenoble. Non ? C'est génial une église comme ça. Je vous ai dit que je signerais si on me proposait un poste. Moi, il n'y a rien proposé pour le moment. Mais une église comme ça, moi, je signe. Seulement. Seulement. Il faut le rayon X. Seul Jésus est capable de savoir ce qui se passe. Et donc, problème, Jésus propose une solution. Parce que quand Jésus dénonce, il propose toujours une solution derrière. D'accord ? Et c'est ce qu'on voit ici. L'église d'Éphèse devait se souvenir et se repentir. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. À cette époque, l'église n'avait pas 100 ans. Elle était beaucoup plus jeune que vous, elle n'avait que 40 ans. D'accord ? 40 ans de mariage. Est-ce qu'après 40 ans de mariage, on est aussi passionné ? Alors, il y en a qui n'atteignent pas les 40, mais peut-être la trentaine, 25. Il y en a qui atteignent largement les 40 ans de mariage. Est-ce qu'on est aussi passionné qu'au début ? Moi, je dois constater qu'après 17 ans de mariage, l'amour est parfois un peu émoussé. Mais c'est que chez moi. Eh bien, Jésus, il préconise deux actions concrètes pour que l'église d'Éphèse retrouve son premier amour. Se souvenir. Premier point, se souvenir. C'est étrange. Ouais. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi ce que tu étais au début. Et vous savez quoi, quand j'ai lu ce texte, je me suis remémoré mes premiers temps dans la foi, les premières victoires sur le péché, les premières découvertes de la Bible, les expressions de la Bible, c'était génial. Quoi ? Mais ça vient de la Bible ! Mais c'est génial ! Mais quand vous l'avez lu 20 fois, ça ne fait plus le même effet. Et toute cette découverte et cette fraîcheur, on lisait la Bible. Alors des fois, je lisais, c'était au hasard, je prenais, j'ouvrais ma Bible et tout, et à déconseiller fortement. Hein. Mais bon, j'ai découvert comme ça. Et je découvrais ce que le Seigneur disait. Moi, j'ai découvert l'évangile tout seul, dans ma chambre, en lisant l'évangile de Matthieu. J'ai commencé là, enfin non, j'avais commencé à Genèse, et je me suis perdu dans Exode, et j'ai dit non, il faut aller dans le Nouveau Testament. J'ai commencé à Matthieu, et là, pff, tout seul dans ma chambre. Waouh ! Et se replonger, se souvenir, c'est un peu les Madeleines de... la Madeleine de Proust. Hein. Vous voyez ? Élie, vous vous souvenez d'Élie ? Quand il fait son burn-out. Élie fait un burn-out, qu'est-ce que fait Jésus ? Petite Madeleine. Galette chaude. Dans le désert, c'est cool, hein ? Galette chaude, qui lui rappelait probablement son enfance. Des choses positives, petites choses. Et on a besoin de se souvenir. Pourquoi on devait mettre des cailloux les uns sur les autres quand on traversait une rivière avec Josué, par exemple ? C'était pour se souvenir. Parce que ça évoque des choses positives. Quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui a perdu son premier amour, généralement, c'est parce qu'il ressasse constamment des choses du présent qui sont négatives. Et là, il lui dit, souviens-toi. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi comment tu m'aimais avant. Revenez à votre mariage, à votre voyage de noces, si vous êtes marié, évidemment. Souvenez-vous, revenez. Vous savez ce qu'on a fait, nous, à nos 15 ans de mariage ? On est revenu là où on avait fêté notre voyage de noces. C'était Honfleur. Oh, pour les amoureux, c'est génial. Au bord de l'océan. Et ça nous évoque des souvenirs positifs. Et on retrouve hein, cet entrain, petit à petit. Et donc, le Seigneur nous dit, souviens-toi. Souviens-toi. Deuxième étape, et s'il n'y a pas la deuxième étape, le souvenir ne sert à rien. Ça sera bien, ça sera chouette. Le repentir. Se repentir. Se repentir, c'est changer la manière de penser qui nous a conduit peu à peu à cette apathie. Changer votre manière de penser. Et donc, c'est avant tout un changement de mentalité, mais elle est combinée à un changement de pratique. La repentance, la vraie repentance, ce n'est pas du regret. La vraie repentance, elle conduit toujours à quelque chose de positif, à un changement. Si vous dites « je me suis repenti », mais qu'il n'y a rien qui a changé, c'est que tu ne t'es pas repenti. Tu es dans le regret, mais pas dans la repentance. Ce n'est pas centré sur Christ. La repentance, elle est centrée sur Jésus. Parce qu'on réalise que le péché ou que mon apathie, eh bien, il est mort pour ça, en fait. Parce que c'est un péché. Hein. Quand on n'aime plus Jésus alors que c'est un commandement, c'est le commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et là, si le cœur n'est pas entier, les amis, on est dans le péché. Ça peut être de l'amour, un manque d'amour pour notre Sauveur, alors qu'il mérite, il est mort pour nous sur une croix. Il a sacrifié sa vie. Vous savez, j'ai eu ma belle-sœur qui était... en train de faire du canoë-kayak. Et elle est arrivée sur un rapide. Et à un moment donné, le canoë s'est coincé entre deux rochers, mais l'a retourné. Et elle était la tête dans l'eau. Elle a essayé de se débattre avec ses rames et tout. Elle était coincée, elle ne pouvait pas sortir du canoë, il était bloqué. Et là, elle m'a dit, le film de ma vie s'est vraiment passé. En quelques secondes, tout a été retracé. Jusqu'au moment où il y a un de ses moniteurs qui était là, qui a vu... Il n'y avait que le bateau et il s'est dit, elle est sous l'eau. Il a plongé, il est allé la récupérer et il l'a sortie. Elle s'est mise à respirer. Et vous savez quoi ? Elle m'a dit, tu sais, j'oublierai jamais cet homme. Tous les jours, quand je me lève, je pense à lui. Tous les jours, je pense à lui. Mais vous savez, ce genre de sacrifice, enfin, ce n'est pas un sacrifice de sauvetage, pardon. Ce genre de sauvetage, c'est rien par rapport à Jésus. Parce que son ami... Il est venu, il l'a sauvé, mais il n'est pas mort. Jésus, lui, il est venu nous chercher sous l'eau avec le canoë-kayak, mais lui, il est mort à notre place. Il nous a sauvé la vie. mais lui, il est resté dans l'eau. Et si ma belle-sœur est capable de se souvenir chaque jour et de dire, il n'y a pas une journée qui passe sans que je passe à cet homme parce qu'il m'a sauvé la vie. Mes amis, le sauvetage de Jésus, mais il est tellement plus grand. Tellement plus grand. La repentance nous conduit à Christ. Elle nous conduit toujours à Christ. La repentance, c'est une affirmation claire et nette de la réalité. Par exemple, vous vous adressez à Dieu et vous lui dites, « Seigneur, je ne t'aime plus comme au début. J'ai un amour très limité pour toi. Je te donne les miettes, en fait. » C'est un constat déjà, d'accord ? Honnête, la confession. Je confesse, je reconnais avec Dieu que, voilà, ça c'est la réalité. Et derrière, tu t'engages à changer. Tu vas mettre des jalons. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver cette apathie, ce manque d'appétit ? Et ce n'est pas l'idée d'attendre, hein. C'est maintenant, en fait. Si vous constatez que vous êtes éloigné. Et quand je vous prêche ce message, les amis, cette semaine, je peux vous dire que j'ai fait l'étape avant vous, parce que moi, je suis comme tous les autres dans cette salle. J'ai des périodes où je suis à fond avec le Seigneur, et puis des fois, c'est la descente. C'est la descente. Mon amour baisse, un peu comme Pierre qui coule là. Non, non. Le Seigneur nous dit, ah, souviens-toi, repens-toi, constate, fais le constat, sois honnête. Essaye pas de te cacher, trouver des fausses excuses bidons, parce que ça, on est tous capables de le faire, et je suis le premier. Maintenant que tu as constaté ça, tu changes. Qu'est-ce que tu peux faire ? Mon Seigneur, c'est ce que j'ai fait ? Parce que moi, je lisais la Bible jusque-là dans une Bible à l'ancienne, quoi, sur du papier. Puis ça fait 2 ans, j'ai changé de version, et donc je lis sur ma Bible numérique. C'est super pratique, le soir, on se couche et tout, mais j'ai perdu tous mes repères. Vous savez, votre Bible, c'est comme votre doudou, hein. C'est précieux quand vous l'avez. Et donc, j'ai tous mes repères. Quand on me pose une question sur la Bible, je l'ai bariolé dans tous les sens. Je sais exactement vous répondre. Ah, attends, c'est en haut à droite dans tel livre. Et je trouve ça en 2 secondes. Sur une Bible numérique, j'ai perdu tous mes repères. Et du coup, j'ai perdu cet appétit, vous voyez ? Où je redécouvre, ah ouais, j'avais souligné ça, c'est génial. Là, c'est, hein, on tourne avec le doigt comme ça, ça peut défiler, on peut faire des recherches, c'est génial, c'est un outil formidable. Mais moi, personnellement, ça m'a perturbé. Et là, j'ai dû le constater, je me suis dit, ok, tu reviens à de la Bible, et tu vas te mettre toujours au même endroit quand tu lis la Bible. Trouve-toi un repère, hein, quelque chose qui nous rassure aussi. Alors, on n'est pas des petits pharisiens, hein, attention, mais ici, c'est vraiment vital de retrouver notre premier amour. Parce que je me souviens que dans ces moments-là, c'était génial. Je prenais ma Bible avec mon café, j'en ai taché plus d'une page, mais au moins, elle était là et elle m'accompagnait. J'ai arrêté de lire la Bible le matin tôt, à essayer d'avoir des canevas bibliques, parce que, en fait, je lisais la Bible pour lire la Bible. Non, je lis la Bible pour aimer Dieu, pour mieux le connaître, pour mieux servir son corps. C'est pour ça que je lis la Bible. Pas, je ne lis pas la Bible pour lire la Bible, parce que tous les pasteurs doivent lire la Bible en un an. D'ailleurs, je ne lis pas la Bible en un an, je vous la confesse. Je la lis 3 fois en 3 ans. Parce que je lis 3 fois le même passage. Donc je mets 3 fois plus de temps, mais je lis 3 fois la Bible en 3 ans. C'est pareil, on s'en fiche. Tu n'as pas lu une fois la Bible. Bah, et alors, ça fait quoi ? C'est un péché ? Non, ce qui est un péché, c'est que tu n'aimes pas Jésus. Et là, c'est beaucoup plus grave. Allez, je conclue. Mes amis, votre église est belle. Je le constate, je l'observe, je le vois. Je vois des gens attentionnés qui viennent me voir. C'est rare, je vous le dis honnêtement, quand on est encouragé. Mais vous voyez pas, c'est pas qu'on vient me voir pour me chatouiller ou me caresser dans le sens du poil. C'est pas pour flatter mon orgueil. Vraiment, je sens de la sincérité, je vois des gens humbles. Et vraiment, vous êtes une belle église. Et je pense que vous êtes en bonne santé, le nombre de croyants grandit, le nombre de non-croyants qui arrivent dans l'église grandit aussi, vous êtes une église en croissance, donc Quand on est en croissance, les amis, ça fait mal, parce que hein, les ados, ma fille et mon fils sont en plein là-dedans, ça tire derrière les ligaments, ça fait mal. Hein. Oh purée, papa, je ne comprends pas, j'ai mal au coude, j'ai mal là. T'inquiète, ça va passer. Ça, c'est les pasteurs. Pas très cool. Mais c'est la réalité. Donc, une église qui grandit, c'est bon signe. Mais je ne peux pas présumer de l'état de votre cœur. Je suis ni cardiologue, ni radiologue spirituel. Je ne peux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Votre vie, ma vie, est cachée avec Christ. Seul Dieu et seul vous savez où vous en êtes par rapport à ce premier amour. Et vous savez quoi, si vous ne revenez pas à votre premier amour, si vous laissez le péché s'installer, parce que c'est ce qui va se passer, moins on aime Jésus, plus on pêche. Vase communicant. Si tu veux lutter contre le péché, aime davantage Jésus. Focalise-toi pas sur ton péché, focalise-toi sur Jésus. Si on arrête de se préoccuper du sort des perdus, si on arrête de s'engager dans l'Église, si on arrête d'aimer le Seigneur, eh bien, vous savez quoi ? Dieu ne sera même pas frustré. Parce que Dieu, il n'est jamais frustré. C'est ce qu'il va faire, Dieu ? Il va se retirer et il va utiliser une autre église. Il va vous laisser. Il y a plein d'églises mortes qui continuent à être là parce qu'elles vivent avec l'inertie du passé. Puis un jour, il n'y aura plus rien. Et c'est ce qui guette une église qui ne rayonne plus. Une église qui a perdu sa passion. On prie ? Seigneur, c'est un message difficile. Toi seul sais l'état de nos cœurs. Toi seul peux sonder le cœur de cette église, de ses frères et ses sœurs, de mes frères, de mes sœurs. Quand je vois l'état de mon cœur, je me dis que j'ai tellement besoin de ta grâce. Seigneur, et c'est ce que je te prie. Je te demande que tu viennes mettre ton baume réparateur. Tu dis que le changement, c'est maintenant, c'est pas demain. C'est maintenant. Aide-nous à être honnêtes devant notre péché, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous à être honnêtes devant notre apathie spirituelle. Seigneur, je te prie pour mes frères, pour mes sœurs. Je te prie pour que tu les aides à changer, qu'ils puissent poser ces jalons, qu'ils puissent se souvenir et revenir à toi, Seigneur. Que tu puisses transformer leur cœur en revenant à ta parole. Qu'ils puissent s'appliquer les promesses que tu nous laisses dans l'Écriture. Seigneur, merci parce que tu promets que s'il y a de la repentance, tu resteras au milieu de nous. Et c'est ce que je souhaite, Seigneur. Ce que je souhaite à mes frères et mes sœurs qui ont peut-être perdu ce premier amour. Aide-les, s'il te plaît. Aide-les à retrouver ce premier amour. Remets cette petite étincelle dans leurs yeux. Donne-leur cette joie du salut, Seigneur. Cette joie du service. Aide-les, s'il te plaît, dans ta grâce. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.